La communication sociale, c'est une expression qui est parfois un petit peu polysémique, mais si on prend dans son acceptation la plus large, c'est effectivement la communication mise au profit, au bénéfice d'organisations qui ont une vision sociale ou sociétale. Donc on n'est pas dans la communication d'entreprise, on n'est pas dans la communication marchande, mais on est dans la communication d'organismes qui ont une volonté de promouvoir un nombre de valeurs et de causes. Donc cette communication sociale s'est beaucoup développée ces dernières années, avec le fait que des organisations qui étaient non professionnelles très souvent, des associations notamment, ont pu progressivement adopter des techniques plus modernes donc de marketing et de communication pour professionnaliser leur démarche. Donc effectivement, on constate depuis, j'allais dire, une quarantaine d'années aux États-Unis, plutôt une vingtaine d'années en Europe et en France, un développement significatif de ce mode de communication.
Quelles ont été les avancées en termes de communication sociale ces dernières années?
Je dirais que la dernière évolution d'importance, c'est que la communication est souvent perçue comme une communication un peu descendante d'un émetteur, une organisation, une association, à un récepteur, un donateur, un adhérent, le grand public, un citoyen, etc. Or, les techniques modernes de communication, et notamment tout ce qui tourne autour d'Internet, du monde du web, ont permis maintenant d'avoir des communications qui sont, comme on dit, non plus verticalisées, mais horizontalisées. Ce qu'on appelle également des communications peer-to-peer, c'est-à-dire pair à pair, c'est-à-dire un adhérent par rapport à un autre adhérent, un donateur vis-à-vis d'un autre donateur. Et donc, c'est vraiment cette communication prise comme un dialogue et non pas comme une descente d'un supérieur hiérarchique, j'allais dire, à quelqu'un qui doit attendre une bonne nouvelle. Donc c'est cette évolution vers une communication réellement participative et horizontalisée qui est sans doute l'évolution majeure ces derniers temps.
Et durant ces dernières années, l'Église a adopté aussi une communication, on va dire, 360 degrés, c'est-à-dire qu'elle communique aussi bien offline et en online, sur les réseaux sociaux, les sites internet. Y a-t-il un risque pour l'Église de communiquer à travers ces médias-là?
Il y a toujours un risque de communiquer. Je pense que quand Jésus parlait, il prenait des risques et d'ailleurs, ça lui a coûté très cher, si on peut raisonner humainement. Donc, le risque de la parole, le risque de la prise de parole est inhérent, finalement, à la communication. Est-ce à dire que, pour autant, il faut se taire? En tout cas, je pense que la vocation de l'Église qui est incarnée dans le monde est une vocation de faire entendre sa parole. Donc, même si le risque existe, je pense, de toute façon, il faut être capable de l'affronter avec lucidité. Et je pense que les bénéfices qu'on peut attendre sont bien supérieurs aux risques que cela peut générer. Je crois en particulier que ces techniques Internet qui sont souvent diabolisées, y compris à l'intérieur même de l'Église, parce que justement non maîtrisables, parce que capables du pire, sont aussi capables du meilleur, parce que sont aussi capables de rapprocher des personnes, d'être un vrai outil de dialogue et de concertation. Et donc l'Église doit les aborder avec cet optimisme, sans idéalisme utopique, mais avec cet optimisme inhérent à ses valeurs.
La communication au service d'une authentique culture de la rencontre, c'est le thème choisi par le pape François. Nous sommes dans une société de plus en plus individualiste et le pape François définit le pouvoir de communication comme une proximité. Comment la communication peut-elle être au service d'une authentique culture de la rencontre aujourd'hui?
D'abord, c'est presque, j'allais dire, étymologique, hein, la communication, c'est il y a comme, cum, avec, hein, en latin. Donc la communication, c'est vraiment avec l'autre, hein, c'est ça. Sinon, c'est de l'information, c'est pas de la communication. Donc je crois que si on aborde cette logique de communication, non pas, comme je le disais tout à l'heure, dans une logique d'information descendante, mais vraiment comme une communication et un échange réciproque, on est vraiment dans cette logique de la rencontre. Et donc je crois que l'Église est vraiment dans son rôle d'utiliser les moyens modernes de communication, non pas comme une finalité plus exactement, mais au contraire comme un moyen de s'approcher du frère et de s'approcher de l'autre. Et je crois qu'il y a vraiment aujourd'hui toute une série d'évolutions qui permettent de relever ce défi.
Le pape, il souligne aussi dans son message pour la Journée mondiale de la communication que l'attention et la présence de l'Église sont importantes dans le monde de la communication pour dialoguer avec l'homme d'aujourd'hui et l'amener justement à rencontrer le Christ. Quelle est votre vision à vous de la communication sociale au service de l'Église?
Je crois que finalement l'Église est peut-être prise en tenaille et c'est compliqué comme position entre deux attitudes, une attitude un peu de protection, c'est-à-dire on aborde ces outils avec beaucoup de méfiance et donc avec la peur de s'y perdre. Et donc ça conduit à vouloir maîtriser les messages, à vouloir maîtriser son vocabulaire et donc ça nécessite finalement, ça nous amène à ne pas être naturel mais au contraire à être dans une attitude un peu protectrice. Donc forcément les mots qu'on utilise sont extrêmement verrouillés, on ne veut pas choquer, on a tellement peur de se tromper que tout doit être contrôlé. Et puis, donc voilà, cette attitude qui consiste un petit peu à être protectrice, j'allais dire, et par conséquent, finalement, assez peu valorisante pour les personnes qui, en face de nous, apprennent peu de choses et finalement, on perd notre naturel. Et puis, l'autre attitude, qui est peut-être un autre piège dans lequel on peut tomber, c'est finalement le piège de la séduction, voire même le piège de la provocation. C'est-à-dire que pour pouvoir exister, être entendu dans ce monde des médias, eh bien, tenir des discours qui surfent tellement sur les modes habituels qu'on risque, si on y prend garde, de perdre son âme. Donc, est-ce qu'il faut être tellement protecteur qu'on en perd son naturel, ou est-ce qu'il faut être un peu provocateur au risque de perdre son âme? Je crois que le débat, il est là. Et je pense vraiment que l'Église a une troisième voie qui est vraiment, en tenant compte de ces deux pôles, d'avoir une vraie approche positive, où il faut à la fois qu'elle soit elle-même, qu'elle soit naturelle, qu'elle ose parler, même si parfois elle n'est pas très bien comprise, même si parfois elle est mal décodée, même si son discours est mal perçu. Mais il faut qu'elle dise ce qu'elle est. Et il faut qu'elle le dise aussi en utilisant des mots et en utilisant des tendances d'aujourd'hui, sans perdre son âme pour autant. Il ne faut pas hésiter à aller chercher les gens là où ils sont et non pas forcément les vouloir qui viennent déjà faire l'effort de nous rencontrer. Il faut aller à leur rencontre, hein, c'est bien ce sens de rencontre. Et si on va, c'est-à-dire presque gratuitement, à cette rencontre, eux-mêmes auront envie de venir à la nôtre.
La vocation si missionnaire de l'Église qu'a précisé le pape François pour son message pour cette journée mondiale de la communication.
Je pense qu'on peut relier ça à son exhortation apostolique. Je crois vraiment que ça donne envie de s'adresser aux gens avec joie, hein, et heureux de partager de manière très simple les trésors de la foi qu'on a pu découvrir. Et si on aborde les personnes avec joie, aujourd'hui c'est vraiment les mots clés que les gens ont envie d'entendre, c'est joie, c'est authenticité, et c'est vraiment ces mots que peut incarner très naturellement finalement l'Église.
Est-ce que le pape François a changé aussi le moyen de communiquer de l'Église?
Il aide beaucoup l'Église dans son image, et notamment auprès aussi d'un public beaucoup plus large que les fidèles de l'Église catholique. Alors peut-être faire attention aussi à ce que tous les organismes catholiques, la presse, les différents médias, télé, Zemmour, radio, à chaque fois qu'on ne surutilise pas l'image quand même du pape, parce que sinon, finalement, à force de voir son image partout, on oublie que ce qu'il dit, c'est que chacun doit être responsable de l'Église. Et donc ne nous réfugions pas finalement derrière l'image du pape pour nous permettre de ne pas être nous-mêmes acteurs de cette rencontre de communication qu'il nous propose de vivre avec les autres.